Bonjour à toutes et à tous. La santé en Aveyron avec le conseil départemental et puis le musée Fenaille qui participe à une mission archéologique en Éthiopie. C'est le menu du MAG aujourd'hui. On va commencer avec la santé, gros sujet, hein, et le département qui a donné un avis favorable à la politique de l'Agence régionale de santé pour les prochaines années. C'est après Pofou et Cody Lawless sur CFM Rhodes.
On. She the pyramids of Giza, I'm the tower of Babylon. Feel my body heal when I make you laugh. Tell me what you want.
What you say?
What you want?
I'll be sitting front row, watching all your dances. Drive you to your classes. We can be that classic, movie that's romantic. Gonna let the sparks fly, I burn down your attic. Yeah, yeah.
You's important, me not so. Pouring rain, but it changed my thoughts. It's okay, girl, it's okay.
CFM, le MAG, la santé était au cœur de l'assemblée plénière du conseil départemental vendredi dernier. Rapport de la Chambre régionale des comptes, rapport aussi très complet d'ailleurs de l'Assemblée pour l'Aveyron sur le thème améliorer l'accès aux soins de santé en Aveyron. Et puis l'Assemblée devait aussi donner son avis sur la politique de l'Agence régionale de santé pour les prochaines années. Avis favorable, au final, Arnaud Viala, président du conseil départemental.
Je tiens à dire de manière très claire la chose suivante. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est élu local comme nous le sommes ici, on a deux options. Soit on est dans l'aigreur de ne pas faire de la politique nationale et on mène des combats qui sont des combats d'ailleurs, et on essaie de se positionner sur des décisions nationales qui appartiennent, je le regrette, mais au Parlement. Soit on essaie de promouvoir et de porter une approche différente qui est celle de la proximité, du pragmatisme et de la contribution. Moi, je regarde la proposition de l'ARS Occitanie. Elle est charpentée en six axes. Ces six axes correspondent aux enjeux de notre territoire sur le plan de la santé. On l'a dit, ils sont insuffisamment précis et insuffisamment dotés de moyens. Et nous, notre choix, ça a été de proposer pour chacun des points qui nous semblent absolument vitaux pour les Aveyronnais, une contribution forte du département et du groupe Aveyron, y compris sur des champs dans lesquels nous ne sommes pas compétents. Je vous en cite un. Quand on fait un hôpital médian en Sud-Aveyron, c'est le ministère de la Santé qui le fait qui le finance et qui le porte. Cet hôpital médian, il va être situé à distance de certaines populations. Nous, j'ai affirmé une volonté, c'est celle de faire des travaux routiers à hauteur de 30 millions d'euros pour faire en sorte qu'on réduise les temps de parcours. On n'avait aucune obligation de le faire. On le fait parce qu'on croit que c'est notre rôle et qu'on doit être aux côtés de l'État qui vient tenter de résoudre une difficulté en Sud-Aveyron pour apporter une plus-value. Ça nous donne le droit de discuter avec ce même État de sujets sur lesquels il pourrait nous dire « mais c'est pas de votre ressort, laissez-nous faire ». Ça nous donne le droit, par exemple, de discuter de l'organisation territoriale hospitalière et de voir avec eux comment on optimise un dispositif qui doit permettre que l'hôpital ruthénois, qui est puissant, qui est récent en plus, soit le pivot de toute une armature qui regroupe les établissements moins importants, tout en les confortant, et qui nous permettent d'asseoir derrière nos politiques en matière d'accompagnement du vieillissement, du handicap, etc. Ça nous donne le droit de discuter aussi de gré à gré de la situation des urgences. Et là aussi, nous faisons des propositions. Et nous disons que le SDIS, qui est déjà un acteur très très impliqué, est capable d'aller plus loin, à condition que l'État nous accompagne sur le plan des moyens. Ça nous donne le droit de discuter de projections sur les EHPAD. Et on a dit qu'on voulait porter un modèle innovant correspondant à des attentes qu'expriment nos concitoyens qui ne seront pas les mêmes dans 20 ans que maintenant. Voilà. Donc, cette posture, moi, d'abord, je pense que c'est la seule que nous devrions avoir. C'est aussi le choix que j'ai fait, moi, en quittant l'Assemblée nationale et en venant ici, parce que j'ai considéré que c'était en local qu'on était le plus apte à avoir des solutions concrètes aux problèmes qui se posent. Et puisque vous attendez une réponse claire, moi je ne vois pas l'intérêt de s'opposer de manière systématique quand on considère que les choses ne vont pas toujours complètement dans le bon sens, mais esquissent des directions qui peuvent correspondre.
On a bien compris, manque de moyens par ces détails pour les réserves, mais avis favorable, enfin, vous êtes quand même d'accord avec le programme, mais moi je n'ai pas compris sur quel point alors vous êtes, pourquoi vous votez pour.
Et je crois que je l'ai exposé tout au long de la matinée. Nous, moi je suis favorable aux axes stratégiques contenus dans le PRS, et nous avons choisi d'être favorables en précisant les points sur lesquels nous souhaitons que dans le cadre de l'élaboration du pacte territorial, il y ait un contrat de signer avec l'ARS pour répondre aux enjeux aveyronnais.
Alors c'est quoi ces axes ?
Ces axes, c'est l'organisation territoriale de la santé, c'est la gestion des urgences, c'est la question de l'innovation sur le vieillissement, c'est la question de la réorganisation des soins de psychiatrie, c'est la question du répit pour les aidants, c'est la question des dispositifs qui tournent autour de l'assistance aux mineurs en difficulté que nous avons en charge. Et pour chacun des axes, nous avons dans le rapport qui a été voté ce matin par l'Assemblée départementale poser clairement nos orientations et nos attentes vis-à-vis de l'ARS et du ministère de la Santé.
L'Assemblée n'a pas voté unanimement pour ce rapport. Donc ce que vous m'avez dit, moi j'ai envie de vous dire, tout le monde doit être d'accord hein, pour que le monde soit meilleur. Donc,
Alors je me permets, sans être condescendant, de vous dire que si vous raisonnez comme ça, vous êtes un peu dans l'archi-simplification. Nous on a travaillé pendant plusieurs semaines et plusieurs mois sur la contribution qui constitue le socle du pacte territorial. Moi, je lâcherai rien. J'ai l'occasion de le dire souvent. Je sais avoir une réputation de fermeté, mais je la revendique et j'y tiens. Mmh. Et je peux vous dire que nous ne signerons le pacte territorial que quand nous aurons reçu la certitude de la part de l'ARS que nous serons accompagnés. Moi, à ce stade, je n'ai aucun signal qui me donne à penser que ça n'est pas le cas. Mais si tel était le cas, évidemment, je le ferai savoir. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est de la complaisance. Pas du tout.
Alors, dernier mot là-dessus. Il y a eu des petites discussions autour de l'hôpital de Rodez qui deviendrait, alors c'est peut-être plus qu'un titre, un hôpital départemental. Et au-delà de Rodez, on s'inquiète que ça fasse un peu aimant. Ouais.
Il l'est déjà, hôpital départemental. De fait, ce que nous voulons, c'est revoir la manière dont son rôle se déploie auprès de tous les autres établissements du département. Et le voir négativement, c'est précisément faire l'inverse de ce qui est souhaité. Ce qui est souhaité, c'est le conforter dans le rôle de pilote, mais le conforter dans le rôle de pilote qui s'assure que tous les copilotes restent bien à bord de l'embarcation. Et donc, il n'est pas du tout question de fragiliser qui que ce soit d'autre. Au contraire, c'est de renforcer la prise aussi que peut avoir le territoire départemental sur l'organisation de la santé à travers la place prépondérante de cet hôpital central.
Affaire à suivre, une autre affaire à suivre les prochaines semaines. Là, c'est une mission archéologique qui part lundi en Éthiopie. Une mission en partenariat avec le musée Fenaï, dont le directeur est d'ailleurs du voyage. C'est à la découverte de stèles, de menhirs, voire de statues menhirs. Aurélien Pierre, directeur du musée Fenaï.
Mais dans ce pays-là, il y a une quantité de stèles assez spectaculaire et assez incroyable. C'est plusieurs milliers de stèles qui sont conservées. Alors c'est vrai qu'il y a, quand on pense au musée Fenaï et à sa collection de statues menhirs, finalement, il y a quelques parallèles formels qu'on peut faire. Puis nous, on intervient surtout en lien avec une exposition qui sera organisée l'année prochaine sur le sujet. Et puis on accompagne la mission sur tout le volet conservation, restauration, des différents sites et de ce patrimoine archéologique qui est en péril, comme il peut l'être aussi dans nos régions, je dirais. Les problématiques qu'il y a en Éthiopie sont les mêmes aussi qu'en France. Il y a des problèmes de dégradation, d'altération liés au climat. Ce sont des sites de plein air. C'est pas des stèles qui sont mises à l'abri. Il y a des dégradations aussi humaines. Enfin, il y a toutes ces problématiques de conservation et aussi de mise en tourisme aussi. C'est assez passionnant parce que c'est une région où il y a une agroforesterie traditionnelle très importante, la culture du café, c'est un peu la région où est né le café. Mais il y a aussi une très forte pression démographique qui joue sur ces stèles, donc il faut aussi sensibiliser les populations sur l'importance de conserver ce patrimoine-là, qui peut permettre aussi de développer un tourisme raisonné, qui peut diversifier aussi les ressources aussi locales. Donc il y a tout ça à prendre en compte dans un pays qui a un potentiel après touristique énorme et exceptionnel, mais qui est un peu altéré par la situation politique à l'heure actuelle. Donc il y a plein d'enjeux qui sont passionnants. Donc à travers notre petite échelle, avec beaucoup d'humilité, on intervient, mais derrière, il y a beaucoup d'enjeux, je pense, pour cette région. Sur le volet restauration, c'est vrai qu'on va tester avec une restauratrice, Sophie Jeanne Vidal, à Véronèse, j'en profite, des protocoles de restauration de ces stèles qui permettraient aussi, à moyen terme, aux Éthiopiens aussi de pouvoir gérer pleinement, parce que l'idée, c'est qu'il y ait une forme d'autonomie après derrière, on ne sera pas toujours là. Donc notamment, on teste des solutions à partir d'huiles essentielles qui permettent de combattre notamment les lichens en surface assez agressifs dans cette région-là, donc qui permettraient peut-être de plusieurs pulvérisations à plusieurs périodes de l'année selon les sites. Enfin, il y a des protocoles à tester. On va essayer de tester, de mettre en place des grands principes cette année, et puis voir comment ça peut se démultiplier ou pas, former aussi peut-être aussi des personnes sur place. On a des étudiants qui vont nous accompagner. Bon voilà, il y a tout un partenariat qui se met en place dans cette région.
Alors, nous, on vous connaît, directeur du musée Fenaï notamment, ouais. Bien habillé, musée au centre-ville de Rhodes. Là, vous allez enfiler une salopette et creuser des trous en Éthiopie ?
Oui, c'est ça, une salopette. Alors, peut-être pas une salopette, mais un pantalon un peu adapté, ouais, des chaussures adaptées, ouais, notamment. Et puis surtout de l'anti-moustique et un chapeau.
Derrière tout ça, nous, alors je sais peut-être qu'on pourra vous suivre d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des réseaux sociaux là-bas en Éthiopie.
Alors, curieusement, oui, c'est-à-dire qu'on peut, on peut facilement, je dirais, alors selon les régions, quand même avoir du réseau, comme dans, je pense, beaucoup de régions en Afrique, je connais mal l'Afrique, mais après, il n'y a pas le Wi-Fi, c'est sûr, sur ces sites-là, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas tout ce confort moderne, mais on peut avoir du réseau, donc c'est possible de publier, oui, des images, des petites photos, des choses comme ça, oui, bien sûr.
Et en retour quand même, vous allez revenir un jour, on espère tous, et on pourra peut-être profiter de votre travail et de ce voyage ici au musée.
Oui, alors l'année prochaine, dans le cadre de l'exposition, dans tous les cas, on va essayer de retranscrire tout ça au public le plus large, et puis on va documenter photos, vidéos, du son aussi, je vois que vous avez vos enregistreurs, ça fait partie du projet, peut-être pour de futurs podcasts, donc voilà, amener de la matière après qu'on pourra plus largement diffuser et qui pourra accompagner l'exposition, les activités, les animations, les conférences. Voilà. L'équipe sera amenée à intervenir ici, présenter tout ça avec nos différents mécènes. Je pense aussi au Café Richard, voilà, qui sont associés à cette opération et qui nous accompagnent depuis 3 ans. Tous les différents partenaires. Voilà. C'est une mission quand même où je crois qu'on est près de 10, Vincent, non, c'est ça ? Plusieurs laboratoires, plusieurs partenaires, à la fois en France, en Éthiopie. Voilà.
Alors vous allez ramener des trucs, mais vous n'allez pas pouvoir ramener des statues menhirs du local. Mais nous, on en verra quand même l'année prochaine.
Alors pour les bagages, c'est 23 kilos au maximum. Ouais. Je suis un peu dans l'actualité. Avec pas mal de problèmes qui se posent pour nous, notamment pour ramener du matériel de conservation ou des produits. pour arriver à transporter 10 litres d'huile essentielle en Éthiopie. C'est compliqué, par exemple. Mais non, pour ramener des stèles, l'idée, c'est pas de... On a changé un peu nos rapports avec ces collections et ces objets et ces pays. Donc, on va utiliser, si on peut dire, les objets qui sont rentrés dans les collections publiques européennes depuis près d'un siècle. Donc, c'est plutôt ces pièces-là, notamment en Allemagne, où il y a les seules stèles de la région enfin, Gedeo qui sont conservées, à peu près une petite vingtaine. On va essayer d'en faire venir une dizaine remarquables, plus des objets du musée du Quai Branly, d'autres collections publiques, privées. Voilà, donc je pense qu'il y aura un ensemble assez... original et conséquent, avec l'idée qu'on puisse aussi la dupliquer un peu, cette exposition, ensuite, après, en Éthiopie, dans une forme adaptée, voilà, que ce contenu-là serve aussi ailleurs.
L'expo de retour d'Éthiopie, ce sera à partir du mois de juin prochain, au musée Fenaille. Le responsable de la mission qui part lundi en Éthiopie, c'est Vincent Hart. Il est archéologue au CNRS de Toulouse et a déjà effectué plusieurs missions sur ces mystérieux mégalithes éthiopiens qui se comptent par milliers.
Alors c'est vrai qu'en termes de nombre de sites et de stèles en l'occurrence, c'est vrai qu'il y en a énormément, peut-être sans doute beaucoup plus qu'en Aveyron. Par contre, on n'est pas du tout sur les mêmes chronologies. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'ici, on est dans le néolithique, on est à plusieurs millénaires avant notre ère, alors qu'en Éthiopie, on est à ce qui serait ici l'époque médiévale, autour du 8, 10, 11e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est deux phénomènes très différents, parce qu'on aurait... Parfois, et on le voit des fois sur Internet, tendance à dire, voilà, il y a un mégalithisme dans le monde et comparer des régions très distantes. Là, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les questions qui se posent, la manière de les étudier, les problématiques de conservation dont parlait Aurélien, peuvent être les mêmes. Et c'est un peu l'objectif de cette mission, c'est d'apporter notre expertise sur des sites qui sont effectivement très différents et aussi finalement d'avoir en Éthiopie la possibilité de rencontrer des communautés qui érigent encore des stèles, ce qui a totalement disparu en Europe.
C'est quoi l'objectif de l'expédition ?
Alors l'objectif, il est multiple. Alors, il y a déjà des questions autour de la datation du phénomène qui est très mal daté. On ne sait pas exactement quand ça commence. Est-ce que c'est beaucoup plus ancien qu'on peut l'imaginer ? Comprendre comment où ils ont été chercher les pierres, comment ils les ont mises en forme, et puis aussi chercher où vivaient les gens qui ont construit ces stèles. Pour l'instant, c'est une énigme totale. C'est-à-dire où, voilà, il y avait forcément des villages, on les connaît pas. Mmh. Et puis, il y a aussi l'idée d'aider, en fait, les communautés locales à valoriser ce patrimoine, à le conserver, peut-être à développer aussi des espaces muséographiques à Addis Abeba, par exemple. Et c'était un peu l'idée, moi, quand j'ai été voir Aurélien, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on peut pas aussi faire des liens entre musées, entre la France et l'Éthiopie? Donc voilà, l'idée, c'est à la recherche, conservation, et puis aussi former des étudiants sur place. Donc il y a des étudiants qui vont venir fouiller avec nous, et puis il y a aussi des étudiants qui vont venir en France, notamment à Toulouse, pour qu'on les encadre, dans le cadre de doctorat par exemple, pour qu'ensuite ils puissent retourner en Éthiopie et former eux-mêmes d'autres étudiants en archéologie. C'est une science naissante en Éthiopie, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est surtout des équipes étrangères qui sont venues fouiller, qui sont reparties, mais qui n'ont pas forcément formé les gens sur place. Donc l'idée, voilà, c'est qu'à terme, il y a des équipes éthiopiennes qui conduisent ces recherches, même si aujourd'hui c'est un travail en collaboration avec eux.
Et des Éthiopiens sur place qui vivent parfois au milieu des différents sites, mais sans vraiment en connaître la signification.
Alors c'est compliqué parce que en fait, il y a les religions musulmanes, chrétiennes, surtout orthodoxes d'ailleurs en Éthiopie, qui sont installées au cours de l'époque, à la fin de l'époque médiévale. Et en fait, évidemment, des stèles phalliques, faut bien imaginer que ça posait problème. Donc il y a eu vraiment une volonté, en quelque sorte, de faire disparaître ces croyances. Et aujourd'hui, le lien, c'est un petit peu coupé. C'est-à-dire pour certains, ils veulent conserver ces sites, ils les respectent, mais ils ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Et c'est là qu'est tout l'intérêt, nous aussi, de nos recherches, et de leur expliquer. Ben voilà, là, il y a des tombes. Par exemple, quand les premières tombes qu'on a découvertes, ils étaient complètement... ils ne nous croyaient pas sur l'intérêt du site. Ils nous disaient, qu'est-ce que vous faites sur ces pierres sur lesquelles on marche tous les jours? Et quand les premiers os humains sont sortis, là, tout le monde est arrivé, les enfants, les personnes âgées sont arrivées, et ils nous ont dit, mais finalement, vous aviez raison, vous êtes venus d'Europe pour nous montrer que finalement ces sites-là, ils ont un intérêt. Donc en quelque sorte, ils sont peut-être en train de se réapproprier ce patrimoine. Alors sur le plan scientifique, c'est une région majeure parce que c'est la région sans doute la plus riche d'Afrique en mégalithisme. C'est aussi sans doute les traces d'une civilisation qui a disparu, mais une civilisation qui a érigé des milliers de stèles. Donc il faut imaginer sans doute quelque chose qui était une civilisation assez majeure en termes de pouvoir, sans doute aussi de la possibilité de faire venir des gens pour construire ces sites. Civilisation qui a totalement disparu, et évidemment là l'idée, c'est aussi de faire renaître ces... Il faut savoir qu'en Afrique, on a beaucoup d'endroits où on a presque l'impression qu'il ne s'est rien passé avant la colonisation. Et en réalité, ces civilisations-là qui étaient nées en Afrique, eh ben, on les a perdues parce qu'il n'y a pas de traces dans les textes. Et ça, c'est une des vraies difficultés qu'on a, c'est qu'en Éthiopie, pour ces régions-là, contrairement à d'autres régions d'ailleurs qui ont eu une grosse influence à l'époque médiévale, dans le cadre notamment de courants marchands ou de choses comme ça, ben là, on n'a aucun texte. Donc toutes les données qu'on va avoir viendront de l'archéologie.
On n'a aucun texte, je ne sais pas si c'est la raison, mais parce qu'on est dans un bled paumé de l'Éthiopie, ou on est où exactement, puis un petit peu la surface par rapport à l'Aveyron.
Alors là, on est à plusieurs centaines de kilomètres au sud d'Addis Abeba. On est dans la région qu'on appelle Gedeo, qui est il faut imaginer qu'il y a beaucoup de groupes. Hein. Il y a plus d'une quarantaine de langues en Éthiopie encore actuellement, ce qui est sans doute loin de ce qui a pu exister à un moment donné. Donc c'est une région qui est pas immense, hein, qui je pense est un peu plus grande quand même que l'Aveyron, mais pas forcément immense. Par contre, qui concentre un nombre de sites très très important. Et donc la difficulté, nous, c'est que quand on arrive sur place, c'est qu'on n'a pas de carte des sites, sauf ceux qui sont déjà connus. Donc il y a un très très gros travail aussi de recherche sur place, d'interview des gens. C'est un peu chercher parfois une aiguille dans une botte de foin.
Alors ces statues menhirs, je ne sais pas comment vous le dites, enfin ces mégalithes, voilà, prenons le terme générique, ça fait des recherches qui se poursuivent, mais même vous-même depuis quelques années, donc il y a déjà des images, et ils peuvent nous apparaître pour certains enfin très différents les uns des autres. Mais pour vous, il y a un lien ou pas?
Alors, c'est compliqué. On voit des styles, c'est-à-dire que par exemple, ces stèles phalliques, c'est très concentré dans cette région-là. Et puis, il y a aussi des stèles anthropomorphes, c'est-à-dire avec des visages humains. D'ailleurs, certaines stèles phalliques qui sont transformées en stèles anthropomorphes. Donc, on voit qu'il y a des phases où il y a des phénomènes de mode presque, de type de stèles. Alors, évidemment, la difficulté, c'est de savoir comment ça s'ordonne dans le temps. Est-ce qu'il y a des styles qui ont été contemporains à un moment donné, ou est-ce que c'est successif? Est-ce que c'est lié, pourquoi pas, à des arrivées de populations qui, à un moment donné, ont fait abandonner certaines modes au profit d'autres? Donc là, c'est un vrai travail sur la chronologie. Et puis surtout, la difficulté, c'est de dire, toutes ces stèles, à quoi ça sert? C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que certaines stèles, elles sont liées à la, par exemple, pour matérialiser des emplacements de tombes, c'est-à-dire comme nous aujourd'hui dans un cimetière, sauf que là, sur des grands sites comme Shelba Toutiti par exemple, il n'y a pas de tombe au pied des stèles. Donc qu'est-ce que c'est? Alors certains ont dit, c'est ce qu'on appellerait des cénotaphes, c'est-à-dire des tombes sans corps. On dirait, là j'ai mis une stèle pour symboliser la mort d'un tel. Mais comment le prouver? Et puis quand on en a des milliers, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, il y a une vraie question, on n'aura peut-être jamais la réponse d'ailleurs, ça c'est toujours la difficulté, c'est que on n'a pas de texte. Et pour revenir à la question de savoir pourquoi on n'a pas de texte, c'est des régions en fait qui ont été très peu fréquentées par les Occidentaux. Et en fait, ces textes, ça a été surtout les grands marchands qui sont passés dans certaines régions et qui ont fait des comptes rendus de leurs visites. Là, on les a pas. Donc c'est vrai que la seule source de connaissance, c'est l'archéologie, et l'archéologie ne se fonde que sur le matériel. Donc c'est sûr que les croyances, c'est la difficulté. Et c'est la même chose pour les statues menhirs. On peut les décrire, mais les comprendre, c'est presque impossible en réalité.
Alors les statues menhirs, elles sont beaucoup plus anciennes apparemment que ce que vous allez retrouver là en Éthiopie. Mais nous, on ne peut pas s'empêcher, les connaissants ici à Rodez, les statues menhirs, de dire que certaines des stèles que vous avez en Éthiopie ressemblent vachement... Certaines pas du tout, hein. Mais d'autres, ça ressemble vachement à ce qu'on a ici au musée Fenaille, alors qu'il y a 3000 ans d'écart et 10 000 bornes. Il n'y a vraiment aucun lien?
Alors, il n'y a aucun lien. Après, c'est assez intéressant. Nous, on le voit dans tous les domaines de l'archéologie, c'est qu'il y a des convergences. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses comparables. Par exemple, des dolmens, on en connaît en Corée. On les mettrait ici, ça serait les mêmes. Donc il y a en fait, à un moment donné, et en fait, quand on réfléchit, c'est pas totalement incohérent, il y a des populations qui vont avoir, entre guillemets, la même idée à des moments différents, à des géographies très différentes. Il y a des dolmens, par exemple, dans le nord de l'Éthiopie, qu'on pourrait mettre en Europe, et ça serait les mêmes. Sauf que, on n'est pas dans les mêmes chronologies, on n'est sans doute pas du tout dans les mêmes fonctionnements. Donc effectivement, il y a cette convergence, et c'est aussi là-dessus qu'il y a l'intérêt de l'expo à Fenaille, c'est que finalement, ça fait un éclairage sur d'autres populations qui vont ériger des stèles, ou on pourrait parler de statues menhirs, c'est-à-dire vraiment, pour certaines en tout cas, il y a des représentations humaines, mais il n'y a pas de lien direct, mais par contre, il y a une convergence dans la manière de représenter des croyances à un moment donné de l'histoire.
Pour plus d'infos et en attendant les nouvelles découvertes en Éthiopie, je renvoie vers un documentaire passé sur Arte en 2021, Le mystère des mégalithes. C'est son titre, c'est avec Vincent Hart que vous venez d'entendre. Le doc est encore dispo sur la page Facebook de la chaîne franco-allemande. Voilà, c'est la fin du MAG pour aujourd'hui. Très bonne journée à toutes et à tous sur CFM Rhodes, bien sûr, et rendez-vous demain même heure pour une nouvelle édition.
CFM, elle a tout ce qu'il faut, là où il faut. CFM.